Nous allons continuer d'entrer dans les noces de Cana. C'est tout à fait le jour, puisque c'est l'évangile d'aujourd'hui. Donc, après avoir essayé de comprendre un peu la signification du dialogue, puisque je vous avais dit que tout était là, la signification de ce dialogue entre Jésus et Marie. Comment le regard de Jésus sur sa mère, femme, que me demandes-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Ceci nous aide à comprendre la signification de la demande de Marie. De sorte que ce n'est pas véritablement un refus de la part de Jésus. C'est un étonnement. Un étonnement qui n'est pas du tout un reproche, mais qui fait comprendre à Marie la profondeur de sa demande. Marie ne peut demander que ce qu'elle a reçu. Qu'est-ce qu'elle a reçu de Jésus? Sa parole, son enseignement. Et elle a compris que cette parole de Jésus et que cet enseignement de Jésus était pour elle quelque chose de meilleur que toute la parole des prophètes. Un vin plus délicieux. Pour Marie, l'enseignement que Jésus lui donnait une signification nouvelle à tout ce qu'elle pouvait savoir, connaître de l'Ancien Testament. Et elle aurait voulu que ce qu'elle avait reçu soit donné aux autres, comme normalement. Quand on aime ceux qui sont autour de nous et qu'on reçoit quelque chose qui nous aide, qui nous éclaire, qui nous aide à vivre notre vie divine, on voudrait que ce soit donné à tous. On ne veut pas garder pour soi, la sagesse se communique sans envie. Parce que la sagesse est reçue gratuitement et donc elle se communique sans envie. Et Marie vit de cette exigence, de cette sagesse reçue sans envie. Mais depuis le cinquième mystère joyeux, Marie comprend qu'elle ne doit plus prendre d'initiative. Parce que Jésus est mené par l'Esprit Saint vers le Père. Il est tout entier aux affaires du Père. Et donc, Marie ne veut pas prendre d'initiative. Elle attend que Jésus en prenne. Jésus vient de prendre cette grande initiative de partir au désert et d'avoir choisi ses apôtres. Marie peut alors, à ce moment-là, à travers un fait providentiel, le manque de vin à ses noces, exprimer, à travers ce fait, le désir profond de son cœur. Et ça, c'est presque toujours comme ça que la providence nous conduit. Elle nous demande la pauvreté intérieure. Donc elle nous demande l'abandon complet, être entièrement remis au bon plaisir de Dieu. Et l'Esprit Saint a réclamé ça de la Très Sainte Vierge, que Marie soit entièrement remise au bon plaisir de Dieu. Quand Marie était pleinement remise au bon plaisir de Dieu, le petit signe à l'extérieur qui montre qu'elle peut exprimer son désir. L'abandon divin ne supprime pas nos désirs, mais fait que nos désirs s'incarnent au moment où Dieu le veut. Et quand Dieu le veut, et non pas selon nos désirs à nous. C'est ça, je crois, le propre de la conduite de l'Esprit Saint en nous. C'est la manière dont l'Esprit Saint purifie notre prudence. Notre prudence qui doit être transformée par le don de conseil et qui fait que nous demandons conseil au Saint-Esprit et que nous ne passons jamais devant la volonté de Dieu. Que nous attendons qu'il y ait des signes qui nous indiquent cette volonté. Normalement, à des noces, Il ne manque pas de vin dans un pays de vin. Ce fait que la présence du Christ à ce repas, qui aurait dû apporter justement une plénitude de joie, que la présence du Christ à ce repas apporte cette espèce de pauvreté, c'est pour Marie quelque chose de très éclairant. Chaque fois que Jésus est présent dans notre vie, il nous rend pauvres. Chaque fois que Jésus est présent dans notre vie, il nous fait comprendre notre pauvreté. Et plus il est présent, plus il nous fait comprendre notre pauvreté. Et que nous sommes incapables par nous-mêmes de faire quelque chose. La présence de Jésus à Cana fait que tous ceux qui ont préparé ce repas, et tous les amis, comprennent qu'il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est d'accomplir la volonté du Père. Et Marie se sert de cette pauvreté pour exprimer le désir de son cœur. Et le désir du cœur de Marie va moins loin dans l'ordre de la compréhension que ce que Jésus comprend. C'est toujours comme ça dans nos prières de demande. Dans nos prières de demande, Jésus comprend beaucoup plus profondément ce que nous demandons que ce que nous-mêmes, nous avons conscience de la demande. Quand nos demandes sont sous la mouvance du Saint-Esprit. Quand nos demandes sont simplement nos désirs, c'est tout à fait différent. Nos désirs humains, vous voyez, nos volontés propres. Mais quand nos demandes sont vraiment les demandes du Saint-Esprit, quand nous demandons quelque chose sous la mouvance de l'Esprit-Saint, alors à ce moment-là, Jésus reçoit notre demande en allant beaucoup plus loin que nous. Il y a toujours un hiatus entre les deux. C'est très curieux, nous verrons ça du reste, parce que je crois que dans l'évangile de Saint-Jean, il y a toute une théologie de la prière de demande, ce qui est normal. Hein? Parce que la prière de demande, c'est quand même quelque chose de très important. C'est notre lien avec Jésus, notre lien de confiance, notre lien d'amour avec Jésus. On lui confie les désirs de notre cœur, et on lui demande que ces désirs de notre cœur soient parfaitement réalisés selon ce que lui désire. Et non pas à la manière dont nous désirons. C'est ça la purification de ces désirs, vous voyez. Parce que nous avons toujours une manière artistique qui exprime nos désirs. Et nous voulons les réaliser de telle manière. Et tant que nous restons attachés à cette manière, bien, notre prière n'est pas une vraie prière. Notre prière reste tout simplement une manière de commander à Dieu. Il faut ça, c'est nécessaire d'avoir ça. Mais non, Dieu sait beaucoup mieux que nous ce qui est nécessaire. Et donc, tant que nous ne sommes pas arrivés à remettre radicalement à Dieu tout notre être, mais nécessairement, nous aurons toujours l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Et nous dirons, Dieu ne nous écoute pas. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que nous avons mal prié. Nous avons prié encore en imposant à Dieu notre manière de voir. Or Dieu veut que nous soyons tout entiers relatifs à Dieu, tout entiers relatifs à lui. Mais ça exige une très grande pauvreté. Vous voyez, c'est dans la prière de demande que la pauvreté s'approfondit. C'est pour ça que Dieu réclame de nous des demandes pour nous apprendre à nous appauvrir, pour que nous allions jusqu'au bout de l'appauvrissement. La prière, c'est exposer à Dieu nos désirs. Mais on peut les exposer en mendiant, n'ayant aucun droit. Ou on peut les exposer en propriétaire. Alors, avec un certain droit. Alors, à ce moment-là, Dieu ne peut pas répondre. Parce que en répondant à notre demande, Dieu tout simplement nous installerait dans notre instinct de propriété. Ce n'est pas une béatitude. Soyez propriétaires, bienheureux les propriétaires, de leur avoir, non, bienheureux les pauvres. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile d'être pauvre dans ses désirs. Parce que d'être pauvre dans d'autres choses, ça va, vous comprenez, c'est relativement facile. Mais d'être pauvre dans ses désirs, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que nos désirs, surtout quand ces désirs qui expriment ce qu'il y a de très fondamental en nous, nos désirs, ça nous semble absolument nécessaire. On dit, je ne peux pas vivre sans. Eh oui, vous pouvez vivre sans. Puisque c'est Jésus qui vous fait vivre. Ce n'est pas vos désirs. Et ce n'est pas l'accomplissement de vos désirs. Mais évidemment, ça, c'est une purification très radicale. Alors, c'est beau de voir que l'évangile de Jean commence par une purification du cœur de Marie. Marie aussi a besoin d'aller toujours plus loin dans la purification. Le quatrième mystère joyeux, c'est la purification de Marie. Oui, face à Siméon, face au sacerdoce lévitique. Et le début de l'évangile de Saint Jean, c'est la purification du cœur de Marie face à Jésus. Parce que ça a été une fameuse purification pour Marie, étant donné la délicatesse du cœur de Marie. Quand Marie dit non plus de vin, Jésus aurait pu répondre oui, oui, très bien, je reçois ta demande, très très bien, attends, ne t'inquiète pas, je prends ça dans mon cœur. Voilà ce qu'elle attendait au point de vue comme mère de Jésus. Et Jésus lui dit, femme, que me demandes-tu ? Il y avait une espèce de recul. C'est extraordinaire, ça. Je comprends que les pères de l'Église ont dit que c'était un refus. C'est pas un refus, prendre ses distances. Pourquoi ? Parce que Marie précipite Jésus dans le mystère de l'agonie. Chaque fois que Jésus est en présence de son heure, Jésus entre en agonie. Ça, c'est l'évangile de Saint Jean. Chaque fois. Jean ne nous rapporte pas le mystère de l'agonie proprement dit, mais il nous montre qu'il y a dans le cœur de Jésus une agonie permanente. Et que cette agonie s'exprime dès que Jésus est en présence de son heure. Et il l'exprime. Mon heure n'est pas encore venue. Comme si Marie précipitait les événements. Vous voyez, la hâte de Marie dans le mystère de la visitation. C'est très très beau. La hâte de Marie dans le mystère de la vie apostolique de Jésus. C'est encore plus extraordinaire. Parce qu'il y a une hâte dans le cœur de Jésus. Mais Jésus veut que Marie passe devant. Et que ce soit la hâte de Marie qui soit au point de départ de son premier geste de vie apostolique. Et que ce soit la demande de Marie qui enveloppe toute sa vie apostolique. Alors vous comprenez là le lien qui existe, hein, je crois, entre Cana et le coup de lance. C'est très net que seul l'évangile de Saint Jean nous donne ce point de départ et ce terme de la vie apostolique de Jésus. Le point de départ Cana, le terme le coup de lance. Aucun autre évangéliste ne nous le donne. Alors évidemment, on peut dire simplement que c'est l'alpha et l'oméga. Selon l'Apocalypse, il y a toujours un lien entre l'alpha et l'oméga. Le lien ici est facile à comprendre. C'est que la demande de Marie, ils n'ont plus de vin. Jésus répond partiellement. Il ne répond pas entièrement. C'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a une suspension. Il entre en agonie. C'est vrai, je crois. Il y a un grand moment de silence. Mais Marie comprend, Jésus accepte et que Jésus a reçu sa demande. Et qu'il la reçoit pleinement puisque justement il entre dans l'agonie. Et c'est pour ça que Marie peut dire, faites tout ce qu'il vous dira. La réponse de Jésus, c'est un signe. C'est un signe. Et Saint Jean souligne que c'est un signe, il ne dit pas un miracle, il dit un signe. Pour bien nous faire comprendre que la réponse de Jésus n'est pas adéquate à la demande de Marie. Ce n'est qu'un signe. Un signe nous annonce quelque chose d'autre. Un signe ne prend toute sa signification qu'en raison de la réalité qui est signifiée par ce signe. Alors, quelle est la réalité signifiée par ce signe? Vous comprenez bien que ce n'est pas la transformation de l'eau en vin. Ça, c'est le miracle. C'est donc quelque chose d'autre. Je crois qu'on peut dire que c'est un signe qui annonce la vraie réponse de Jésus. Quelle sera la vraie réponse de Jésus à Marie? Ils n'ont plus de vin. Ce sera toute la vie apostolique de Jésus, c'est sûr, mais plus profondément. Ce sera quand Jésus donnera son sang comme nouveau vin. Et ceci engage le mystère de la croix, ceci engage le mystère du coup de lance. Et donc on peut dire, voyez, que ce signe prophétique annonce le coup de lance. Au sens très très fort. Et que la vraie réponse de Jésus, c'est le coup de lance. Et c'est pour Marie. Alors ça prend à Cana une signification très étonnante. Je crois que ça ne peut le dire, voyez, que dans une théologie mystique. Je ne pourrais pas dire ça au point de vue exégétique. Impossible. Mais dans une théologie mystique où j'essaie de comprendre le point de départ et le terme de la vie évangélique de Jésus, où je comprends que toute la vie évangélique de Jésus est commandée à la lumière de la croix et que spécialement ce que Jean, lui, nous dit et ne peut se comprendre que dans la lumière dernière de la croix, dans l'évangile de saint Jean, s'achève dans le coup de lance. Et donc, l'ultime moment de la croix, c'est le coup de lance, qui blesse le côté du Christ, qui blesse le cœur de l'agneau. On est vraiment dans le mystère de l'agneau. Et c'est là où on découvre la réponse. Je suis persuadé que Marie, au pied de la croix, au moment de du coup de lance, a compris la réponse de Cana, qui était toujours restée, voyez, comme une demande. De sorte que pendant toute la vie apostolique de Jésus, la demande de Marie demeure. Ils n'ont plus de vin. Et la demande de Marie demeure, qui permet de mieux saisir la manière dont Jésus répond. Et tout l'enseignement du Christ, c'est vraiment cette manière dont Jésus veut donner à son peuple la plus grande lumière qu'il peut donner. Mais cette réponse ne suffit pas. Il faut qu'il y ait en dernier lieu la réponse propre du Christ, qui est de donner son sang comme nouveau vin. Alors voyez, ceci fait comprendre la parole aussi de l'intendant. Quand l'intendant eut goûté l'eau devenue du vin, il ne savait pas d'où cela venait. Mais les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors ça, c'est très très beau de voir que ceux qui ont obéi sont les premiers témoins. Ce serait une très belle théologie de l'obéissance, de montrer que grâce à l'obéissance, on devient les témoins privilégiés. Les témoins privilégiés du miracle, les témoins privilégiés de la réponse de Jésus. Par l'obéissance et dans l'obéissance. Parce que par l'obéissance, ils ont coopéré. Et ils ont coopéré de cette manière tout à fait particulière. Et donc, ils ont été les premiers témoins. Les témoins les plus émus, ça je suis sûr. Vous n'avez qu'à vous mettre à la place de ses servants et de voir, hein, après avoir obéi en s'appuyant entièrement sur ce que Marie a dit. Et là, il faut bien comprendre que si Marie n'avait pas dit « faites tout ce qu'il vous dira », ses serviteurs qualifiés n'auraient pas obéi. C'est tout de suite Marie qui nous apprend à obéir. L'obéissance de novice ne se fait qu'avec Marie. Hein. Comment voulez-vous que ces gens qui sont habitués à servir le vin pendant un repas de noces, et qui savent très bien ce que ça représente, remplissent d'eau les jarres qui sont faits pour tout à fait autre chose, fasse ça. C'est quelque chose d'invraisemblable. Jésus est un inconnu, tandis qu'ils ont vu Marie comme maîtresse-femme. Ils ont aimé Marie. Et alors, grâce à ce lien avec Marie, on voit comment Marie, dans sa médiation, oui, le premier moment de la médiation de Marie, c'est bien ici, hein, puisqu'elle a pris la misère des servants et l'a présentée à Jésus. Et sa médiation ensuite, le double moment de la médiation de Marie, hein. Il y a toujours deux moments dans la médiation de Marie. Un premier où elle prend nos misères, on lui confie nos misères, et puis un second moment où Marie joue le rôle d'intermédiaire. Vous voyez, on dirait affectif et effectif. Hein. Une médiation affective, elle prend la misère des servants, et la médiation effective, faites tout ce qu'il vous dira. Elle donne un ordre impératif pour que les servants deviennent capables d'obéir, pour que les servants puissent vraiment aller jusqu'au bout de l'obéissance. Par nous-mêmes, nous sommes incapables d'obéir, surtout quand on est des ouvriers qualifiés. Plus on est des ouvriers qualifiés, plus c'est difficile d'obéir, parce que on peut jauger la qualité des gens qui sont à côté de nous en disant, dans ce domaine-là, je suis beaucoup plus compétent que les autres. Ces servants de vin étaient beaucoup plus compétents que Jésus dans le domaine du service du vin. Ça, c'est bien évident. Et donc, ils n'auraient pas obéi. L'obéissance est très difficile quand on est compétent. C'est plus difficile pour des théologiens d'obéir à l'enseignement de l'Église que pour des braves gens qui ne savent rien du tout. C'est plus difficile parce qu'ils ont une certaine compétence. Dès qu'on a une certaine compétence, il faut l'avoir, hein, pour augmenter le mérite de l'obéissance. Oui. Et alors faire qu'à ce moment-là, le mérite de l'obéissance est d'autant plus fort. Mais alors il faut être enveloppé de Marie. Et si on est enveloppé de la très Sainte Vierge, alors on peut. Si la Sainte Vierge n'est pas là, c'est quand même très étonnant, dès le début de la vie apostolique de Jésus, hein, Jésus n'a pas opéré aucun acte de sa vie apostolique sans que Marie soit là. Je crois qu'on peut le dire dans la perspective de Saint Jean. Il a choisi ses disciples sans que Marie soit là. Mais il a vécu sa vie apostolique en présence de Marie. Et Marie a eu tout de suite un rôle à jouer. Et ce rôle premier de Marie, ils n'ont plus de vin, enveloppe toute la vie apostolique de Jésus. Alors voyez bien ce que l'intendant dit. L'intendant appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. » Ça, ça exprime sa joie extraordinaire. Hein. Un intendant comme ça n'est jamais ivre, hein, vous savez bien, il faut faire grande attention, de garder jusqu'au bout sa capacité de bien goûter. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il en est très heureux. C'est une joie extraordinaire pour lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que dit saint Augustin? Saint Augustin, quand il commande cela, il nous dit que l'intendant, c'est celui qui est responsable du repas. Si ce repas prend une signification très étonnante, hein, je vous ai dit, c'est le repas de la sagesse, puisque Jésus est là. Il y a les invités, mais les vrais invités, c'est pas les mariés, vous comprenez, c'est autre chose, c'est Jésus. C'est Jésus qui de fait prend la première place dans ce repas. Il fallait la pauvreté, plus de vin, pour que Jésus prenne la première place. Il fallait ça, parce que s'il y avait eu du vin jusqu'au bout, Jésus aurait été un invité comme tous les autres. Mais du fait même qu'il manque de vin, Jésus prend une place unique. Tout le repas est remis entre ses mains. Voilà. Le repas, au moins, dans ce qu'il a d'étonnant, de magnifique, de réussi, tout est remis entre les mains de Jésus. Et c'est Jésus qui prend la première place. Donc c'est lui qui, d'une certaine manière, invite tout le monde. C'est la sagesse. C'est un repas de sagesse. Alors, si c'est un repas de sagesse, on comprend que l'intendant nous donne là quelque chose de très important, sous un mode très simple, d'un bon dicton, de gens qui sont habitués aux noces. Il y a des dictons qui sont propres aux noces. On sait très bien, c'est toujours comme ça. Alors il y a un dicton qui est propre aux noces, où le vin est en surabondance. Alors saint Augustin nous dit que là, on nous montre la différence entre la première alliance et la nouvelle alliance. La première alliance, elle était dans la parole de Jésus, dans la promesse. C'était déjà du bon vin, et du très bon vin. Mais la nouvelle alliance va plus loin. C'est l'alliance dans le sang du Christ. C'est l'alliance dans le nouveau vin. Et ce nouveau vin est meilleur que le premier. Ce nouveau vin va plus loin que le premier, puisqu'il reprend tout, dans une nouvelle surabondance. Et alors, que la nouvelle alliance ait demandé l'ancienne alliance, ça peut sembler curieux qu'on ait attendu si longtemps. Eh bien, là, on nous fait comprendre qu'il fallait cette première alliance pour qu'on comprenne mieux ce que représente la grandeur de la nouvelle alliance. Il fallait cette surabondance de la parole des prophètes et des plus grands prophètes de l'Ancien Testament pour qu'on comprenne mieux le dépassement de la parole par le sang du Christ, par le don de ce vin nouveau qui est le sang du Christ. C'est très beau comme interprétation. Et alors là, c'est une interprétation, vous voyez, qui est d'ordre, en quelque sorte, allégorique. On voit bien que l'Ancien Testament, il y a tout un symbolisme, si vous voulez, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on voit l'ordre qui existe entre les deux, et ceci est exprimé à travers le vin premier et le second vin. Je crois que nous pouvons aller encore plus loin en nous servant de saint Thomas. Je vous l'ai déjà dit. Vous savez ce que dit saint Thomas quand il commente ce petit passage? Saint Thomas nous dit, si nous prenons les noces de Cana d'une manière mystique, nous pouvons dire que les noces de Cana expriment le mystère de l'oraison. C'est très beau ça, parce que ça nous fait comprendre comment Jésus, dès le point de départ de sa vie apostolique, veut nous enseigner ce nouveau mystère de l'amour. C'est normal, si la nouvelle alliance, c'est la plénitude de l'amour, on comprend que la première chose que Jésus enseigne, à travers un geste symbolique, à travers une parabole vécue, ces noces de Cana. Et qu'à travers cette parabole vécue, Jésus enseigne quelque chose de très radical que ceux qui l'écoutaient auraient été incapables de comprendre autrement. Mais qui peuvent comprendre à travers cela. Il vient nous enseigner quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau que la nouvelle alliance nous enseigne, c'est notre lien avec le cœur de Jésus. C'est ce lien d'amour qui se réalise à travers le mystère de l'oraison. Vous voyez comment on peut dire mystice, les noces de Cana expriment le mystère de l'oraison. L'intention profonde du Christ en réalisant le miracle, en réalisant ce signe, l'intention profonde du Christ, c'est de nous faire comprendre son appel d'amour. Alors saint Thomas précise, hein, je vais regarder avec vous cette petite précision de saint Thomas qui est intéressante. Saint Thomas précise, qu'est-ce que c'est que le mystère de l'oraison? Le mystère de l'oraison, c'est la transformation de notre cœur avec le cœur du Christ. Donc saint Thomas prend tout de suite ce qu'il y a d'ultime dans l'oraison. C'est normal, puisque l'oraison est une œuvre d'amour. Il faut tout de suite prendre ce qu'il y a d'ultime pour comprendre le point de vue du mystère de l'oraison. Parce que si vous voulez expliquer le mystère de l'oraison par les difficultés que vous avez à faire oraison, vous n'expliquez rien du tout. Tandis que si au contraire vous voulez expliquer le mystère de l'oraison, il faut tout de suite l'expliquer par la finalité profonde. Pourquoi on fait oraison? On fait oraison pour que notre cœur soit changé dans le cœur du Christ. C'est pas pour autre chose. Et on devrait aller à l'oraison comme des invités à des noces. Mais comme ce serait merveilleux. le matin à l'horizon, en dansant, et à l'horizon, en se taisant, hein, mais en dansant merveilleusement. On va à des noces, puisque Jésus nous appelle, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous invite. Et c'est vrai, il nous invite, il est là qui nous attend, hein. Et nous nous réveillons pour aller vers lui. Le mystère de l'oraison, saint Thomas nous dit, c'est un mystère de noces. C'est merveilleux, ça, c'est l'audace du théologien. Vous voyez, saint Jean de la Croix dit que c'est au terme de notre vie, hein, qu'il y a le mariage mystique. Pour saint Thomas, c'est tout de suite. C'est merveilleux pour des novices, hein. C'est extraordinaire, ça. On est tous appelés à ce mystère de noces. On est tous appelés à ce mystère de l'oraison. Transformation de notre cœur dans le cœur du Christ. Parce que l'oraison, c'est l'exercice divin de la charité. Et l'exercice divin de la charité, c'est justement notre bonne volonté, notre cœur humain, dans ce qu'il a de meilleur, c'est notre bonne volonté qui est transformée dans le cœur du Christ. Notre bonne volonté, c'est l'eau. Sont les jars qui servent, voyez, à la purification. Alors ne dites pas que c'est la liturgie qui va se transformer en oraison. Vous voyez, il y a une petite... ce serait très intéressant de regarder ça, parce que ces jars, ça c'est la liturgie, n'est-ce pas? Pour faire l'oraison, allumer le petit cierge, liturgie, c'est très très bien. Ça c'est la bonne volonté. La liturgie exprime notre bonne volonté. Notre bonne volonté de remplir d'eau les jars. C'est vrai, la liturgie, on la fait soi-même d'une certaine manière. Mais, hein. Alors, on liturgie m'a dit, ah, très beau, c'est notre bonne volonté. On remplit d'eau les jars par la liturgie, par la méditation. La méditation aussi, c'est remplir d'eau les jars. Connaissance de l'écriture, la théologie. Quand vous faites œuvre de théologien, vous remplissez d'eau les jars. Alors vous voyez, il faut que Marie soit là, faites tout ce qu'il vous dira pour continuer le travail théologique jusqu'au bout. Hein. Autrement, vous ne le continuerez pas jusqu'au bout. Vous direz, c'est suffisant, je ne comprends rien du tout. Remplissez d'eau les jars. Vous n'y comprenez rien, ça n'a aucune espèce d'importance. Remplissez d'eau les jars. Alors on remplit d'eau les jars. Et puis alors, l'oraison, transformation de l'eau dans l'amour du Christ. C'est ça qui est merveilleux. C'est Jésus lui-même qui opère cette transformation. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire oraison par nous-mêmes. Nous pouvons méditer. Mais nous pouvons faire une liturgie par nous-mêmes. Si on est suffisamment éveillé, encore une fois. Hein, et méditer si on est suffisamment intelligent. Donc si on a fait un peu de philosophie. On fait de la philosophie pour méditer. Pour méditer la parole de Dieu. Mais l'oraison, c'est l'œuvre directe du Saint-Esprit. C'est Jésus qui directement transforme l'eau dans le vin, dans le sang du Christ, dans l'amour du Christ. C'est la transformation de notre cœur dans le cœur de Jésus. C'est très beau comme définition de l'oraison. Ça montre, vous voyez, exactement théologiquement la place de l'oraison. Jésus vient pour nous apprendre à faire oraison. Tout l'évangile, c'est de nous apprendre à faire oraison. Si on a bien compris, si on est johannique, oui, si on est johannique, la grâce de l'évangile de saint Jean, c'est ça. C'est de comprendre que, de fait, la première chose que Jésus nous apprend, c'est l'oraison. Les noces de notre âme avec Jésus. Et saint Thomas ajoute, Marie est toujours invitée. Et c'est encore très johannique. Marie est toujours invitée, comme aux noces de Cana. Il n'y a pas de méthode d'oraison, vous le savez bien. Il y a des méthodes de méditation. Oui, ça c'est vrai, il y a des méthodes de méditation. On peut faire plus ou moins bien la méditation. Il y a des fiches de méditation. Mais il n'y a pas de méthode d'oraison. L'oraison, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On s'y dispose avec notre bonne volonté. Et l'Esprit Saint lui-même réalise ce mystère de l'oraison. Mais Marie est toujours invitée. Il y a donc un climat, un milieu de l'oraison. Et c'est Marie. Et Marie est invitée pour réaliser quelque chose, la hâte de l'Esprit Saint. Marie exprime la hâte de l'Esprit Saint pour transformer notre cœur dans le cœur de Jésus. C'est vrai, ça. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire oraison. Par nous-mêmes, nous sommes indignes de faire oraison. Marie est invitée pour que, par elle, cette transformation de notre cœur dans le cœur du Christ se fasse d'une manière plénière, se fasse d'une manière plus rapide. Et le rôle de Marie, c'est de présenter notre âme à Jésus. Elle présente notre âme à Jésus. C'est le rôle propre de Marie. Vous voyez, Saint Grignon de Montfort reprendra ce que saint Thomas dit là d'une autre manière, d'une manière plus simple, puisque c'est de la prédication qu'il fait à des bons paysans. Alors il dira, mais oui, Marie, c'est la reine qui présente les pommes au roi. Alors elle met un beau plateau d'or ou un beau plateau d'argent. Ça dépend pour qui. Alors un beau plateau d'argent ou un beau plateau d'or sur lequel il y a les pommes qu'elle présente au roi. C'est très très joli pour montrer le rôle de Marie. Saint Thomas, lui, en théologien, ne dit pas ça. Il dit que Marie présente l'âme. C'est très beau. Marie présente l'âme. Et saint Thomas précise, elle est conciliatrix nuptiarum. Elle est conseillère des noces. C'est la seule fois où saint Thomas emploie ce terme pour la Vierge Marie. Conciliatrix, conseillère des noces. Conseillère de ces noces de notre âme avec Jésus. Elle est donc celle qui, dans l'oraison, a un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas faire vraiment oraison sans que Marie soit là. Elle est toujours invitée, saint Thomas le dit, toujours invitée. Chaque fois que vous faites oraison et que vous désirez entrer dans l'intimité avec Jésus, Marie est présente. Et Marie désire jouer ce rôle. Alors, il vaut mieux la regarder, vous voyez. C'est plus correct, c'est plus gentil, n'est-ce pas? Dire à Marie, ben oui, je sais bien que tu es là, mais je ne m'occupe pas de toi, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Il vaut mieux la regarder, et il vaut mieux lui dire que nous comptons sur elle, parce que nous savons que nous, nous faisons très mal en raison. Alors, elle nous met dans le milieu nécessaire. Alors, c'est très important de bien saisir ce rôle de conciliatrice nuptiarum. Quel est le grand obstacle à l'oraison? C'est notre imaginaire, sans parler notre paresse, hein. Mais c'est notre imaginaire. N'étant pas paresseux, vous voulez à tout prix faire oraison, vous êtes très strict pour maintenir le temps de l'oraison, mais vous n'arrivez pas parce que l'imaginaire est là. Alors comment ne pas perdre son temps? Comment ne pas être complice de l'imaginaire? On est si facilement complice de l'imaginaire. C'est de consacrer son imagination à Marie. Si nous avons consacré notre imagination à Marie, il n'y a pas de danger. Parce que Marie peut jouer un rôle sur notre imaginaire, le calmer, l'apaiser. Non pas le supprimer, mais le calmer, l'apaiser. Et donc permettre à chacun d'entre nous d'être plus disponible, d'être plus proche, d'être plus présent. Et je crois que c'est toujours au niveau de l'imaginaire que tous les combats se réalisent. Quand le démon se dit le prince de ce monde, il est le prince de l'imaginaire. Et Marie doit être celle qui règne sur notre imaginaire. Il faut consacrer explicitement son imagination à Marie. Toute cette zone intermédiaire. Si on ne consacre pas explicitement toute cette zone intermédiaire à Marie, on aura une peine énorme. Il faut le faire pour pouvoir être victorieux. Voyez comment les noces de Cana expriment quelque chose qui est très important pour nous au point de vue mystique. Alors je voudrais uniquement, en nota bene, revenir un instant sur ce que je vous avais dit tout à l'heure, parce que je crois que ça, c'est important. Pourquoi, lorsqu'il s'agit du choix des disciples, Marie n'est pas présente? Pourquoi, lorsqu'il s'agit de la vie apostolique de Jésus, Marie est présente? C'est un fait. Alors évidemment, je peux dire, je ne comprends pas. C'est une réponse. Et on attend qu'on comprenne. Pourquoi? C'est quand même très significatif. Hein? Le choix des cinq est avant Cana. Et Marie vient présenter les cinq ou les douze. Et Jésus vient présenter les cinq ou les douze à Marie. Et à partir de ce moment-là, Marie va suivre Jésus. Alors, comment ça se fait, ça? Bien, je crois que lorsqu'il s'agit du choix, on veut nous faire comprendre comment le choix regarde directement le mystère de la prédestination. Et cela, je crois, qu'est en cause en premier lieu. Le mystère de la vie apostolique de Jésus, c'est le mystère de la miséricorde, c'est le mystère du salut. C'est encore la prédestination, mais ce n'est pas la prédestination dans ce qu'elle a de tout à fait propre et de caractéristique vis-à-vis de telle ou telle personne. C'est le caractère beaucoup plus universel de la miséricorde du Christ. Alors je crois que ce caractère beaucoup plus universel de la miséricorde du Christ prend cette note particulière de permettre la médiation de Marie. Et autrement dit, il faudrait essayer de comprendre partout où il peut y avoir médiation de la Très Sainte Vierge, la médiation a lieu. Mais comme la médiation de Marie n'est pas adéquate à la vie apostolique de Jésus, vous comprenez, adéquate, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la vie apostolique de Jésus, ce choix des disciples, qui de fait se fait indépendamment de la Sainte Vierge. Il faut donc essayer de saisir pourquoi. Bien, je crois que d'un côté, c'est le choix jaloux de l'époux, et de l'autre côté, c'est la miséricorde de l'agneau. Alors nous verrons la fois prochaine le second geste de la vie apostolique de Jésus. Ce sera tout à fait bien pour le carême.
Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,